Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. France Culture fête la musique avec Radio France en soutien à la scène musicale française avec notre invité, le compositeur Jean-Michel Jarre. Depuis 76, ce pionnier de l'électro oxygène nos oreilles, fait le show avec des méga-concerts réunissant des millions de personnes. L'homme de la démesure vient par ailleurs de lancer une application dont la bande-son est infinie. Il prépare aussi en secret un projet pour le 21 juin, puis trois concerts à la Philharmonie en octobre prochain. Tout ça un an après l'apparition de son autobiographie, Mélancolique Rodéo, parue aux éditions Robert Laffont. Jean-Michel Jarre est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Puis, en route pour l'inconnu, l'ignorance, une vertu, c'est le deuxième épisode de notre série avec l'historien Alain Corbin, auteur de Terra Incognita.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Jean-Michel Jarre.
Bonjour Olivia.
Toujours beaucoup de projets, toujours en mouvement. Vous n'avez pas encore un hologramme ?
Ça peut venir plus tôt que vous ne le pensez. En fait, effectivement, vous annonciez en préambule de l'émission ce projet encore un peu secret qui va aller de moins en moins, il serait temps pour la fête de la musique, puisque je peux annoncer, d'ailleurs, c'est une première annonce à France Culture, donc c'est une exclusivité pour France Culture, parce que en collaboration avec le ministère qui est en train de communiquer sur tout le programme de la fête de la musique, un des projets phares de cette fête de la musique, c'est justement un concert virtuel que je vais faire dimanche soir en direct. C'est une première française d'ailleurs, puisque première mondiale française avec une start-up et des tas d'artistes graphistes qui ont créé un univers virtuel dans lequel je vais jouer en direct. Ce qui est une première, puisque jusqu'à maintenant, il y a eu des artistes américains qui ont pu aller faire des incursions dans des jeux vidéo préexistants. Là, il s'agit pas du tout d'un jeu vidéo, mais d'un univers que nous créons, totalement original, et où les gens pourront suivre ce concert. Pour les gens qui ont des lunettes virtuelles en 3D, etc., mais de manière très générale, beaucoup plus globale, sur les smartphones, tablettes et d'autre part sur tous les ordinateurs. Enfin, ce sera, et donc ça, c'est un geste en même temps, si vous voulez, qui est à la fois pour moi et bien entendu avant tout artistique, musical et qui me tient à cœur, mais en même temps aussi un message pour montrer que je m'excuse de cette petite introduction un peu longue, mais c'est un sujet qui est effectivement d'actualité cette semaine à la veille de la fête de la musique, de lancer un message aux gens qui finalement, pendant 3 mois, à travers la planète, on a eu 3 milliards de gens qui ont fait 2 choses, c'est se nourrir, et puis sinon, écouter de la musique, lire des livres, et regarder des films, ce qui montre que s'il en était besoin, la culture, et la musique en particulier, est un bien de première nécessité, et qu'il faut arrêter de considérer la musique comme l'air qu'on respire, comme étant gratuite. Pour l'auteur d'Oxygène, c'est peut-être un peu paradoxal, mais effectivement, la musique, c'est pas l'air qu'on respire. Il est temps de redonner à la musique les égards qu'elle mérite, surtout aujourd'hui, avec tout un écosystème de la culture et de la musique en particulier, qui est en très très grande difficulté. Donc, cette fête de la musique, pour moi, en tout cas, si je m'y suis engagé, c'est justement pour lancer un message, justement, à la fois innovant et positif.
Alors, on va développer tous ces sujets ensemble jusqu'à midi et demi, Jean-Michel Jarre, juste pour comprendre quand même, parce que je ne suis pas dans le secret, en tout cas, je ne l'étais pas jusqu'à cet instant avec les auditeurs de France Culture. Vous allez faire comment pratiquement? Vous serez où? Vous allez vous dédoubler? Comment ça va se jouer dimanche 21 juin?
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je serai moi en direct depuis mon studio à l'extérieur de Paris, et en fait, je vais vous jouer à l'intérieur de cette, à travers mon avatar, comme on a vu, qu'on a pu le voir dans le film d'ailleurs, ou dans Matrix, ou dans Clone aussi, avec Bruce Willis, on voit des gens qui peuvent se téléporter dans un, ce qui est familier des gens, des jeux vidéo, mais se téléporter à travers son avatar dans un univers, et donc je vais pouvoir jouer en direct avec la représentation virtuelle de mes instruments, mais je jouerai en fait physiquement depuis mon studio. Donc en fait, il y aura 3 manières de recevoir ce concert. comme je viens de le dire, pour les gens qui ont lunettes virtuelles, qui pourront rentrer et donc faire partie du public virtuel et pouvoir réagir en direct dans cette salle, en fait, virtuelle, de pouvoir l'écouter et le regarder de manière plus traditionnelle sur son smartphone, sur tablette, etc. Et puis, il va y avoir un point aussi physique, dans les jardins du Palais Royal, avec puisqu'on n'a pas le droit encore d'avoir du public ouvert comme nous le savons, un public qui va être fait composé d'étudiants d'écoles de formation du son et d'image qui pourront en fait assister au concert qui sera retransmis sur écran. Ils ont besoin simplement de venir, c'est un concert silencieux, de venir avec leur casque, et à l'issue de ce concert il y aura un échange en direct entre mon avatar et le public qui pourra poser des questions, un jeu de questions-réponses avec cet avatar, et la soirée se terminera où l'avatar ouvrira une porte virtuelle et on me retrouvera moi dans mon studio où j'expliquerai un peu comment les choses se sont passées, une sorte de visite dans les coulisses de ce projet.
Ça peut planter ?
Bien sûr, oui, c'est sûr. On est totalement dans l'expérimentation, et c'est aussi ça qui fait la différence avec ce que nous faisons. Les artistes, est-ce qu'on est, même si tout le monde expérimente dans sa vie à quelque niveau que ce soit, il s'agit là toujours de finalement pouvoir prendre des risques. Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est finalement de lancer un message de résilience aussi, et en disant si on veut s'exprimer aujourd'hui à travers Internet comme on le fait aujourd'hui en ce moment quand on se parle, parce qu'on n'a pas eu le choix pendant des semaines, ça ne remplace pas le spectacle vivant, ça ne remplace pas le plaisir de se retrouver épaule contre épaule, mais je ferai l'analogie de toutes ces nouvelles technologies qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, nous les artistes, les créateurs, c'est-à-dire tout le domaine de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, qui va faire partie de nos vies, de notre quotidien, exactement comme le cinéma l'a été vis-à-vis du théâtre. Il ne faut pas oublier qu'au moment où le cinéma a commencé, a démarré, on projetait les films dans des cirques avec toute la condescendance et le mépris des gens du théâtre qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas de l'art, c'est des gens qui sont pas des acteurs, sont des gens qui sont projeté avec de la lumière sur des écrans en papier, ça n'est pas de l'art. Et en fait, on s'est aperçu du chemin parcouru par le cinéma, bien sûr, et qui n'a pas abîmé le théâtre, qui n'a fait que le renforcer, l'amour de la performance. Je pense qu'aujourd'hui, des techniques comme la réalité virtuelle, par exemple, sont exactement vis-à-vis du spectacle vivant d'aujourd'hui ce que le cinéma peut être au théâtre à la fin du 19e siècle. Je pense qu'il faut prendre tout ça à bras le corps de manière justement, et on a tous les talents ici en France pour pouvoir aussi lancer un message qui soit un message aussi innovant et créatif. Je pense que c'est important effectivement que le gouvernement et que les États nous aident et aident socialement les musiciens qui ont été les grands oubliés dans ce pays. Il ne faut pas oublier que la France est d'abord un pays de littérature et de cinéma, et qui ont beaucoup plus traditionnellement protégé les auteurs et le cinéma que la musique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si d'ailleurs dans les familles, quand les enfants veulent devenir musiciens, la plupart des parents leur disent choisis-toi d'abord un vrai métier. Ça veut tout dire. Il y a tout un pan de notre expression en France qui doit être absolument réajustée dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire vraiment absolument qu'on prenne à bras le corps l'enseignement de la musique de manière sérieuse comme c'est fait dans tous les autres pays. On est très à la bourre et très à la traîne, et je dis ça avec toute l'affection, le respect que j'ai pour des individus professeurs de musique qui se débrouillent avec les moyens du bord, mais en même temps je pense que c'est extrêmement important aussi que nous les artistes, on n'attende pas non plus d'une sorte d'état-providence que les réponses viennent de l'extérieur, mais c'est à nous aussi de nous mettre en question, de parler d'une seule voix, et puis surtout d'arrêter cette histoire hallucinante que les gens rechignent à payer quelques euros pour un disque, pour un album, pour un livre, pour un film, alors que les mêmes n'hésitent pas à aller s'acheter une paire de tennis à 100 euros, un t-shirt à 50 euros qui ont la plupart du temps d'ailleurs coûté quelques centimes à faire en Asie. Donc il y a ce décalage hallucinant qu'il faut réajuster. Je pense qu'il faut profiter de cette période pour justement faire en sorte que nous changions nos habitudes. Il y a effectivement, on parle de l'écologie et d'avoir une éthique vis-à-vis de l'environnement. Il faut aussi qu'on ait une éthique vis-à-vis de notre environnement culturel et qu'on réajuste les choses.
Voilà, c'est pour ça que vous plaidez aussi pour des concerts payants en ligne, que vous réfléchissez aux différents moyens pour soutenir une création musicale aujourd'hui en danger. En mai dernier, dernier d'ailleurs face à la catastrophe annoncée pour ces auteurs, compositeurs, musiciens et toute l'industrie du disque. Vous avez appelé avec d'autres à soutenir la scène française avec 140 artistes et des professionnels du monde de la culture, dont Sybille Veil, la présidente de Radio France, et puis Vladimir Cosma, Patrick Bruel, Laurent Voulzy. Voilà, les institutions d'un côté et les artistes de l'autre réunis pour cette tribune « Engageons-nous tous pour la scène française » publiée par le JDD. Ça veut dire aussi inviter les radios à diffuser plus de musique française, à diffuser des œuvres francophones et françaises, qu'il s'agisse de techno, d'électro, de jazz, quels que soient les genres musicaux, pour soutenir aussi nos artistes. La SACEM a de son côté annoncé fin mai une série de mesures, et notamment qu'elle rémunérerait les live streams des musiciens sur certaines plateformes. On écoute Jean-Noël Tron, le directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
On s'est engagé dans une campagne qui s'appelle Scène Française, hashtag Scène Française. Pour les médias, ça veut dire passer plus de titres produits en France. On n'est pas dans une question de langue. Ça peut être de l'électro français chanté en anglais. C'est pareil. Une radio, elle paye X en fonction de ses recettes publicitaires. Et si elle passe plus de tubes anglo-saxons, ben nous, l'an prochain, on sera envoyé d'envoyer plus de droits vers les sociétés étrangères et moins de droits vers la création française. C'est quand même le moment de se mobiliser. On a également conçu un mode spécial de rémunération pour nos membres qui sont coincés chez eux, dont les concerts ont été annulés et qui font des concerts sur Internet, les fameux live streams. Donc on est la première société d'auteurs au monde à avoir mis en place des règles de rémunération spécifiques pour la période du confinement et au moins jusqu'à fin juin pour les live streams.
Voilà, alors les concerts, vous êtes à l'origine d'un modèle très particulier, Jean-Michel Jarre, de Paris à Houston, de la Cité interdite en Chine aux pyramides d'Égypte jusqu'à Moscou, les méga concerts, ce modèle qui est visiblement durablement remis en cause sous sa forme physique en tout cas, pas virtuelle, et vous l'avez évoqué en ouverture de cette émission avec le projet que vous avez mis en place pour la fête de la musique, des concerts payants en ligne, c'est important. Est-ce qu'il faut rappeler quand même, Jean-Michel Jarre, ce que représente dans la vie d'un artiste aujourd'hui la tournée, le concert, en termes de billetterie, en termes de revenus aussi, et ce que c'est que d'en être privé pour eux?
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec, et je salue l'initiative de mon ami Jean-Noël Tron de la SACEM. C'est vraiment la seule société d'auteurs qui se préoccupe de ce problème, qui est que aujourd'hui il y a des gens qui ont pris la crise de plein fouet, qui ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel, qui ne rentrent pas non plus dans les cases pour être intermittent du spectacle, et qui d'un seul coup se retrouvent absolument sans ressources. Et il s'agit quand même d'un, comme je le disais dans le début de notre conversation, d'un pan de notre vie. C'est-à-dire que la musique, ces trois derniers mois, si nous n'avions pas eu de musique, c'était le désert et le désespoir total. Ça a donc une valeur qui était indiscutable. Et donc, effectivement, le spectacle vivant, à cause du fait que petit à petit, la musique qui est diffusée par les plateformes, Internet en particulier, ne suffisent plus à faire vivre les auteurs, ce qui est en soi-même un paradoxe qu'il va falloir, et quelque chose qu'il faut absolument réajuster rapidement, ce sont les concerts. Donc si les concerts s'annulent, bien finalement ce ne sont pas seulement les artistes, c'est tout l'écosystème, l'écosystème du spectacle qui est mis en cause, c'est-à-dire les techniciens, les producteurs, les promoteurs qui ont investi de l'argent, qui ont les artistes eux-mêmes qui souvent investissent pour pouvoir réaliser un spectacle, une tournée pour le public. Tout ça tombe d'un coup, et donc si on ne réagit pas, c'est dans le monde 50% de nos activités culturelles dans le monde, et la France n'est pas malheureusement d'un point de vue étranger n'est pas le plus mal loti. Quand on prend les pays émergents, c'est encore pire. Et je voudrais dire justement à ce sujet que, si vous voulez, quand moi je vois des plateformes comme Spotify par exemple qui encourage les gens à faire des donations pour les artistes qu'ils aiment, ou que certains pays font des téléthons pour les artistes, il faudrait rappeler quand même que la musique n'est pas une maladie. et qu'il faut, au bout d'un moment, nous-mêmes, la société civile, avoir une attitude adulte vis-à-vis de notre culture, vis-à-vis des artistes, notamment de la scène française, comme vient de le dire Jean-Noël Tronc, qu'au-delà des artistes qui ont le privilège, comme moi, de pouvoir vivre de leur musique, aujourd'hui, il y a des tas de jeunes créateurs qui vont être obligés de changer de voie, c'est-à-dire leur passion, leur vocation va être étouffée dans l'œuf si on ne fait rien.
Cette période, Jean-Michel Jarre, elle nous rappelle aussi que les temps et les choses ont changé, hein, que les artistes notamment aujourd'hui, mais aussi tous les techniciens de la musique, vous le dites, dépendent d'un certain nombre de structures, et que quand ces structures ne sont plus en mesure de jouer leur rôle, c'est tout le secteur dans l'ensemble qui est fragilisé. Vous évoquez aussi le rôle de ces plateformes qui est devenu démentiel aujourd'hui et qui profite d'une certaine manière pour vous du désordre actuel. Vous avez évoqué la possibilité de taxer les GAFA, ce qui est un peu un serpent de mer, mais c'est quand même une manière de rappeler le lien, la relation que ces plateformes entretiennent aujourd'hui avec la création artistique.
Écoutez, rapidement, je mettrai sans doute Apple un petit peu sur le côté. Je suis pas du tout sponsorisé par Apple particulièrement, mais Apple a toujours eu finalement, c'est eux qui ont inventé iTunes, qui était quand même qui est toujours une forme de disquaire virtuel où on peut aller acheter un album. Mais quand on voit les autres plateformes, qui en fait sont les seules qui se sont fait de l'argent sur le dos du virus, ce qui est quand même paradoxal, c'est-à-dire que finalement ils ont passé ce qu'ils font depuis des années, du temps à diffuser des œuvres et à gagner de l'argent sur des œuvres et du contenu qu'ils diffusent, dont les créateurs, eux, produits et créés par des gens qui ont du mal à se nourrir. Donc il y a un décalage absolument qui est inacceptable. Et plutôt que les stigmatiser, il faut au contraire dire au bout d'un moment que nous sommes tous les auteurs, les techniciens, les photographes, les auteurs, les écrivains, les gens de médias comme vous. Nous sommes tous des actionnaires virtuels de ces plateformes. Et au bout d'un moment, il va falloir s'asseoir au bout d'une table et partager de manière saine le gâteau digital et le gâteau numérique qui existe. Il est absolument inacceptable que ce soit seulement les tuyaux, les gens qui fabriquent les tuyaux, qui gagnent, qui amassent des sommes d'argent colossales et en distribuant, encore une fois, du contenu culturel qui produit par des gens qui, ne gagnent rien. Donc c'est aussi ça. Pourquoi les concerts et le spectacle vivant, c'est devenu quelque chose d'aussi important? C'est parce que c'est la seule manière de survivre pour des artistes. Mais ce n'est pas normal. Il devrait y avoir aussi, dans des temps comme cela, comme ça a pu l'être dans le passé, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas dans le futur, qu'on puisse justement vivre de nos droits. Je vais vous donner une idée sur laquelle moi j'ai été pendant 7 ans le président de la CISAC, de la Confédération internationale des auteurs et des créateurs, et par provocation déjà face aux gens de Google, j'avais un moment où le droit d'auteur a été mis en question, le copyright a été mis en question, et on a eu une grande victoire l'année dernière avec la directive européenne qui a permis justement de mettre une borne en disant l'Europe a dit stop. Il faut maintenant s'organiser pour réglementer les droits sur Internet. C'est l'idée un moment où on veut supprimer la notion de copyright et droit d'auteur. C'est au fond l'idée du copyright éternel. Je m'explique en deux mots. Vous savez qu'au bout d'un certain temps, les droits tombent dans le domaine public. La 9e de Beethoven, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine public, vous pouvez l'utiliser, vous ne payez pas de droits. Pourquoi ne pas imaginer que finalement, le copyright ou les droits d'auteur soient éternels et qu'au bout d'un moment, les droits tombent dans un fonds international qui aiderait les jeunes créateurs. Je prends un exemple, l'hymne à la joie, qui est l'hymne de l'Union européenne. Imaginez qu'aujourd'hui, on applique les droits d'auteur qu'il y a sur une chanson qui est encore une chanson qui sort aujourd'hui. Et que à chaque fois qu'on joue l'hymne européen, les droits d'auteur, au lieu qu'ils n'existent pas, finalement, tombent dans un fonds pour aider les jeunes artistes européens. Voilà un exemple d'idée qui ne coûte rien à personne, ou pratiquement rien, sauf aux diffuseurs, qui est tout à fait pensable et qu'on peut réaliser demain matin, qui ne coûtera rien à l'État et qui peut sauver des auteurs. Voilà un type d'idée, il y en a d'autres, qu'il faut simplement aujourd'hui mettre en place. Et je pense que c'est à vous aussi, et je salue le service public, j'en profite pour le dire, qui fait un travail formidable de soutien. Et encore une fois, les artistes sont pas, on n'est pas des ours blancs, des ours polaires en voie d'extinction. Je veux dire, on existait avant l'électricité, on existera après Internet, il faudrait savoir simplement comment. Et je pense que vous avez aussi un rôle rôle de haut-parleur, ce que vous faites très très bien, justement pour pouvoir alerter la société civile. Vous savez, le problème dont on parle tous les deux là aujourd'hui au micro de France Culture, c'est pas le problème des artistes, c'est notre problème à tous. C'est le problème de la société civile, c'est le problème de chaque individu. Nous avons besoin de culture, nous avons besoin de France Culture. Et on a besoin de culture en général. Et donc, c'est à nous de nous réveiller, et c'est aux gens qui s'en sont aperçus pendant le confinement. Il faut que vous preniez votre destin et votre relation avec la culture en main. Les auditeurs qui vous écoutent. Il faut le faire. Et c'est pas seulement pour nous, c'est pour vous.
Voilà. Pour que cette communion-là aussi ne disparaisse pas, virtuellement ou physiquement. Vous avez évoqué la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, compositeurs, Jean-Michel Jarre, la CISAC, que vous avez présidée pendant plus de 6 ans, vient juste de vous succéder, justement, l'un des membres fondateurs du groupe, ABBA, artiste compositeur suédois, à la tête de cette société, de cette confédération, pardon, qui réunit 230 sociétés de droits d'auteur dans 120 pays, 4 millions d'indépendants, un organisme qui collecte 9,6 milliards d'euros de droits d'auteur par an. Ça veut dire qu'il y a les institutions françaises, mais il y a aussi à l'international des accords possibles et des évolutions pour peser dans ce rapport de force que vous évoquiez, notamment avec les plateformes. La technologie, elle a toujours été au cœur de votre recherche, Jean-Michel Jarre, de vos créations. Elle est intervenue aussi, notamment dans toutes les revisitations de vos albums, comme Oxygène depuis 76, comme Electronica. Là, on va écouter un extrait du dernier album, c'est Equinox Infinity avec le mouvement 6. Commun pour les synthés et la mélodie. Il a squatté votre studio pour l'enregistrement d'une partie de son album L'Aventura. Sébastien Tellier qui revient avec un nouvel album, c'est Domesticated. Voilà comment il parlait de vous récemment.
Artistiquement, je suis l'enfant de beaucoup de gens en fait, parce que déjà j'aime tout. J'aime toutes les musiques. À part les chants nazis, tout me plaît. J'aime le reggae, j'aime le jazz, j'aime le rock, j'aime tout. Donc ensuite, je crois que je suis surtout fan des gens qui aiment tout. Par exemple, Gainsbourg, plusieurs styles. Christophe, plusieurs styles. Polnareff, plusieurs styles. J'aime les gens qui ont envie de tout embrasser. J'aime les gens qui ont envie de tout connaître, en fait. J'aime les gens qui s'offrent à ce qui les entoure, finalement. Donc finalement, j'aime tout. Mais après, s'il fallait vraiment, j'ai resserré un peu le truc, c'est que voilà, en France, je serai à la fois le fils de Jean-Michel Jarre, Christophe et Gainsbourg. Voilà, s'ils avaient fait l'amour à trois, ça serait moi après.
Vous en avez beaucoup des enfants comme ça, Jean-Michel Jarre?
Bah écoute, ça me touche beaucoup. J'adore Sébastien. On a travaillé ensemble et c'est vrai que je me sens beaucoup moins seul, je dirais, aujourd'hui que j'ai pu me sentir au début où je travaillais. D'ailleurs, au service public, chez Pierre Schaeffer, au moment où tout commençait, c'est-à-dire que cette musique électro qui est aujourd'hui devenue une des musiques les plus importantes dans le monde, qu'on crée aussi bien sur le plan de la création que de l'écoute. Aujourd'hui, effectivement, j'ai des petits frères que j'adore, dont Sébastien Tellier, dont Rhône aussi, beaucoup d'autres gens, les gens de R, de Daft Punk, etc. Tout ça fait partie de ma famille et je suis heureux justement que cette scène électronique française soit si vivace. On oublie trop que ce genre musical n'a rien à voir avec les États-Unis, n'a rien à voir avec le jazz, le blues et le rock, qu'elle est née d'abord en France et en Allemagne, avec le groupe de recherche musicale, avec Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, etc., avec Stockhausen aussi en Allemagne, et que finalement, cette musique est en droite ligne aussi de la musique classique. Et je voudrais quand même rendre hommage, parce qu'on n'en parle pas assez, de tout justement, de tout tout le secteur de musique classique et de jazz, qui aussi a aussi les mêmes difficultés que le reste. Et moi qui suis justement issu de cette double tradition, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'il faut aussi, comme le disait très justement Sébastien Tellier, moi je suis tout à fait de son avis, j'aime tout et tout au même niveau. Il y a les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas, quel que ce soit dans le hard rock, dans la musique classique, dans la musique sérielle, dans le jazz, dans le punk ou dans l'électro.
Et justement, on vient de perdre Marc Zermati, précurseur du punk rock, créateur de labels et de l'open market, organisateur de concerts et de festivals comme Mont-de-Marsan. Cette aventure punk, elle vous a un temps tenté ?
Alors, mon premier groupe s'appelait les Dustbins, qui veut dire les poubelles en français. Donc, c'était un groupe punk, vraiment un groupe punk avant la lettre. Le premier album, d'ailleurs, qui a dû se vendre à 67 exemplaires, ce qui doit d'ailleurs être une vente considérable aujourd'hui, compte tenu de la conversation précédente. On était à l'intérieur de grandes poubelles où on ouvrait les couverts comme ça au-dessus de notre tête. Donc, l'univers punk m'a toujours beaucoup tenté. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est que quand Oxygène sort, c'est le moment aussi, c'est en pleine période des Sex Pistols. Et je dirais que je me suis toujours senti proche des punks par rapport à une relation du futur, mais on n'a pas exactement la même. Les punks, c'est no future. Et moi, ça serait plutôt what future, point d'interrogation. Mais j'ai beaucoup de liens avec finalement le côté off du punk qui est c'est ça qui est intéressant, c'est le fait justement de pouvoir secouer les choses et il faut aujourd'hui plus que jamais ne pas oublier nos tendances punk. Il faut secouer le cocotier, si j'ose dire. Aujourd'hui, après le confinement, il est temps de secouer les choses socialement, économiquement, et sur tous les plans, et on en a et la France a une grande carte à jouer là-dessus, et je compte sur que pour le fait que l'État fasse des choses. N'oublions pas, et c'est pas un propos politique, ou alors un propos politique au sens grec du terme que je tiendrai là, c'est de dire que quand même, on est le seul État dans le monde où on a un président qui, à un moment donné, a parlé de la culture et du fait qu'il faut s'en préoccuper. Quand on regarde les autres pays, moi je voyage beaucoup, on est très très loin de tout ça. N'oublions pas que la culture est partie intégrante d'une démocratie, c'est pour ça que les dictatures s'en méfient autant. Il y a des tas de pays justement qui sont très contents du confinement, qui sont très contents que les artistes et les intellectuels soient confinés, parce que ça leur permet de fleurir. Donc il y a aussi cet aspect-là, et c'est pour ça qu'il faut être près des artistes, des auteurs et les chérir.
Il en a parlé et beaucoup disent aujourd'hui des paroles aux actes. On attend peut-être que toutes ces bonnes propositions que vous tendez les uns et les autres vont être reprises et transformées pour ce secteur en difficulté aujourd'hui. Une dernière question, Jean-Michel Jarre. Eon, c'est le nom de l'application que vous avez lancée qui contient le premier morceau Infini. Vous avez des envies d'éternité, toujours ?
Non, c'est une idée que j'avais en tête depuis très longtemps. Toutes les œuvres musicales ont un début et une fin. Et je m'étais toujours dit, ça serait intéressant finalement comme les moments de vie. C'est-à-dire le moment qu'on vit là ensemble, tous les deux et avec les auteurs de France Culture, par définition, ne se reproduira jamais de la même manière. Je m'étais toujours dit, ça serait intéressant de penser à une œuvre, et c'est pas nouveau, parce que la musique générative, c'est Mozart qui l'a inventé, qui avait ce fantasme fou de se dire, je vais composer des cellules musicales qui peuvent toutes jouer les unes avec les autres et de pouvoir faire jouer un orchestre de manière infinie, sauf que les humains doivent manger et dormir, donc c'était pas possible. Et la technologie aujourd'hui nous offre ça. Et c'est cette application qui a été développée aussi par une start-up française en collaboration avec qui j'ai collaboré, qui s'appelle Bliss, qui est en fait quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'effectivement c'est un album infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on démarre, qu'on fait play, on va avoir une musique qui sera différente, inattendue.
Jamais au même endroit, parce que vous avez pensé, vous avez pensé les lignes mélodiques, les basses, et après l'algorithme entre en jeu dans cette application et permet de repenser, remodeler tout ça en permanence. Mais juste, vous avez dit, c'est comme la vie, mais la vie, elle a un début et elle a une fin quand même, Jean-Michel Jarre, non ?
Oui, mais je faisais l'analogie avec la vie sur ce qu'elle a le fait qu'elle ne se répète jamais de la même manière. Une rencontre que nous faisons ne se refera jamais de la même manière. C'était plutôt ça. C'est-à-dire le fait que un trajet de vie, bien sûr, un début, une fin, mais en même temps, les rencontres sont des rencontres. Et c'est la beauté d'ailleurs de beaucoup de rencontres et de retrouvailles éventuellement. C'est justement le fait de ne pas se répéter. Et ce qui est intéressant dans ce projet, ce qui m'a beaucoup plu et qui est c'est un projet en devenir, c'est-à-dire que c'est une musique qui se développe, on peut l'écouter pendant, c'est une musique effectivement, si on parle d'éternité, et c'était pas du tout mon idée, mon obsession, qui continuera après ma mort et qui continuera après sans finir cette conversation de manière simple, mais aussi après les auditeurs qui l'auront écouté. Donc c'est en même temps un geste poétique que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, et surtout la musique générative existe depuis longtemps, mais là il ne s'agit pas d'une musique ambiante, planante ou pop, il s'agit vraiment de traverser des univers complètement différents et inattendus.
Stop,
et
c'était une Jean-Michel
vraiment de confinement.
Il faut qu'on s'arrête parce qu'il faut que je rende l'antenne au journal de Thomas Cluzel. C'était un plaisir de vous avoir eu avec nous autour de cette grande table virtuelle, et c'est virtuellement aussi qu'on vous retrouvera, qu'on vous re-rencontrera donc le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique, à de découvrir ce nouveau projet. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous Olivia, et au revoir à tous.
À toutes.